La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de cette rediffusion d'un numéro de la mêlée de l'info où je recevais il y a 5 ans l'enseignante Myriam Martin, membre de la France Insoumise et à l'époque conseillère régionale d'Occitanie, l'écrivain et journaliste Christian Autier, ainsi que Romain Cugive, alors conseiller municipal de Toulouse, ex-membre du Parti Socialiste. Cette émission était consacrée au 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, le 10 mai 1981. Il y a quelques jours, c'était le 45e anniversaire de cet événement, et nous commémorons cette année les 30 ans de la mort de l'ancien président. J'ai donc pensé qu'il était intéressant de rediffuser ce numéro que je vous propose d'écouter de nouveau à l'occasion de ce pont de l'Ascension. Bienvenue également à vous trois. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Il y a 40 ans, en effet, presque jour pour jour, François Mitterrand était élu président de la République française avec 51,8% des voix contre le sortant Valéry Giscard d'Estaing. La gauche arrivait ainsi au pouvoir pour la première fois sous la Ve République. L'élection de François Mitterrand étant confirmée quelques semaines plus tard par une large victoire du Parti socialiste aux législatives, débouchant sur la constitution d'un gouvernement où l'on trouvait quatre ministres communistes, et c'était aussi une première à l'époque. Le 10 mai 81 fut et reste donc à ce titre, pour certains, une date historique, un grand moment de liesse et d'espérance, et pour d'autres, au contraire, une journée particulièrement funeste. Alors, parmi nous quatre, aucun n'était en âge de voter le 10 mai 81, mais pour ceux qui ont connu cette soirée, puis les jours et les semaines qui ont suivi, quels souvenirs en gardez-vous? On parlera ensuite plus généralement des 14 ans à l'Élysée de François Mitterrand et de ce que vous en retenez, mais pour l'instant, on en reste à son élection et au premier temps de sa présidence. Myriam Martin, vous êtes engagée à gauche et je crois que vous avez grandi dans une famille de gauche. Vous étiez une jeune adolescente à l'époque, mais quand on vous parle du 10 mai 1981, qu'est-ce que ça évoque d'abord pour vous?
Vous l'avez dit, à un moment de liesse. Moi, j'ai le souvenir de voir apparaître effectivement le visage, alors d'abord le haut du crâne, en se demandant si c'était Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand. Et j'étais avec mes parents et des amis, et les quatre attendaient avec impatience le résultat. Ils attendaient que ce soit François Mitterrand qui gagne. Et je me rappelle du cri de joie, voilà. Le cri de joie d'abord de mes parents, de ces amis qui avaient l'impression que des choses extraordinaires allaient arriver. Ils n'avaient quand même pas tort, hein. C'était quand même, vous l'avez dit, quelque chose d'historique, enfin un président de gauche sous la Ve République. Et c'était, cette élection était porteuse d'espoir, énormément d'espoir. L'espoir que ça change, les espoirs avec bien sûr plus de justice. Il y avait des positions, on en reparlera j'imagine, et des propositions qui ne pouvaient que contenter un peuple de gauche qui attendait effectivement des avancées sociales. Donc ce soir-là, ouais, la liesse, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai goûté du champagne ce soir-là. Ouais, je n'avais jamais bu de ma vie, je crois que mes parents n'en buvaient pas beaucoup non plus. On n'avait pas l'occasion d'en boire ni d'en acheter, mais ce soir-là, on avait fêté ça, comme plein de gens en fait, je crois, dans ce pays, quoi.
Alors donc, la liesse, sans anticiper, est-ce que l'espoir a duré longtemps ou est-ce qu'il a été de courte durée? concernant le milieu dans lequel vous évoluez à l'époque.
Alors ça dépend ce qu'on entend par la durée, mais au moment du tournant de la rigueur, effectivement, ça a été un petit peu la douche froide. Et jusqu'au départ, mes parents étaient membres du Parti communiste, jusqu'au départ même du Parti communiste, hein, puisque étant en majorité avec le Parti socialiste, ils estimaient que, mes parents donc à l'époque, qu'on n'écoutait pas ces militants-là, ces hommes et ces femmes de gauche qui se sentaient quand même... Alors je ne sais pas si à l'époque ils parlaient de trahison, mais en tout cas, c'était la douche froide et l'espoir a duré, on va dire, allez, 2-3 ans. Et après, ça a été un petit peu la déconfiture, oui, ça c'est clair. Et une déception qui est restée très très forte encore aujourd'hui.
On y reviendra bien sûr. Alors Christian Autier, vous aussi, vous étiez un jeune adolescent le 10 mai 81. Quels souvenirs vous gardez? Bon, évidemment, en général, c'est une soirée en famille devant la télévision. Alors quand le visage de François Mitterrand est apparu.
Oui, moi j'avais 11 ans et je me souviens effectivement, dans ma famille aussi, c'était un moment de joie. C'était une famille qui avait voté pour François Mitterrand. Et bizarrement, j'ai surtout un souvenir du lendemain matin, dans une voiture qui m'amenait au collège, d'avoir vu les affiches. Il y avait encore des affiches électorales, des portraits de François Mitterrand et de Valéry Giscard d'Estaing qui étaient plus ou moins déchirés. Et tout d'un coup, j'ai ce sentiment, cette image qui m'est restée, j'ai eu le sentiment qu'une page était tournée, que ces affiches avaient vieilli de plusieurs années, que voilà, on était entré, j'avais senti ça confusément comme un enfant, qu'on était entré dans quelque chose de totalement différent et que voilà, tout ce qui était venu avant, déjà en quelques heures, avait pris beaucoup de temps déjà.
Et dans votre famille, qui donc avait voté apparemment pour François Mitterrand, est-ce que l'espoir aussi a été de courte durée? Jusqu'en 83, avant, après?
En fait, il a été plus long. Mes parents étaient plutôt dans une mouvance, j'allais dire, PSU, Rocard, Écolo. Donc, ils ont eu des illusions. Ils n'ont pas voulu voir les désillusions tout de suite. Ils les ont eues plus tard, évidemment. Après, quand ça devenait, surtout le deuxième septennat, enfin, on en parlera peut-être quand ça devenait vraiment... Là, c'est incontournable avec toutes les révélations et toutes les affaires. Mais ils ont préféré, comme beaucoup de gens, enfin voilà, il y avait ce clivage droite-gauche. Donc, c'est toujours rassurant de rester dans ce clivage, avoir le bien, le mal, quoi.
Alors je vais me tourner maintenant vers le Benjamin de cette tablée, si je puis dire, parce que vous n'étiez pas né en 81, Romain Cugive. En revanche, vous avez grandi dans une famille qui était vraiment, mais alors très, très mitterrandiste.
Alors moi, j'ai grandi finalement dans deux familles très différentes. C'est peut-être justement ça, une histoire de famille, une histoire de famille que j'aimerais moi transmettre, y compris sur mon rapport à François Mitterrand, à ma fille Athénaïs plus tard. Moi, c'était très particulier ce qui s'est passé le 10 mai 81, puisque mon père faisait partie des 110 personnalités soutenant les 110 propositions de François Mitterrand.
Il était déjà engagé en politique.
Il était déjà engagé. Il est parti immédiatement dès qu'il a su pour faire la fête. Cependant que du côté de la famille de ma mère, mon grand-père, général, chirurgien dans l'armée, a fermé tous les volets et a indiqué à ses enfants l'interdiction faite de sortir puisque le peuple était dans la rue. Je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de considération dans le mot de peuple ce jour-là chez mon grand-père. Donc il y avait finalement, moi j'ai grandi avec cette réalité-là, qui était une forme d'admiration très forte hein, de mon père pour François Mitterrand. On pourra y revenir, mon père est un des fondateurs de la mémoire courte. Donc vous parliez de à quel moment il y a la rupture. Bon, ben, mon père, je crois qu'il ne l'a jamais vécu, hein, cette rupture-là avec François Mitterrand. Et puis de l'autre côté, François Mitterrand, le Parti communiste qui représentait tout ce que mon autre famille pouvait abhorrer dans le peuple français. Donc voilà, finalement il y a ça. J'ai ensuite moi un rapport très très particulier à François Mitterrand, vous l'avez dit, il m'est arrivé, bien que je me soigne depuis quelques mois et années, mais d'adhérer au Parti Socialiste pendant un certain nombre d'années, et je connais bien l'histoire et la vie de François Mitterrand, on y reviendra, et ce que j'aimerais qu'on arrive à faire ce soir, c'est justement d'arriver à se départir de simplement de l'homme, voilà. Mitterrand pour moi c'est pas simplement le Florentin, c'est autre chose que ça. Dans la vie, on est ce qu'on fait. Avant toute chose. Et donc, on y viendra. Et je crois que l'œuvre politique de François Mitterrand est tout à fait colossale. Et on va pouvoir y revenir.
On va même y venir tout de suite, parce que je vais vous poser la question. Quels sont, selon vous, les réformes, les réalisations, les décisions importantes que l'on peut porter au crédit de François Mitterrand et, à contrario, celles que vous jugez comme ayant été néfastes pour la France lors de sa présidence. Alors, je vais passer d'abord la parole à Myriam Martin parce que vous avez déjà un petit peu répondu à la question. Il y a ce qui se passe avant 83, il y a ce qui se passe après.
C'est vrai, c'est un peu... C'est obligé, y compris, d'appréhender les choses de cette manière-là. Ce n'est pas une vision simpliste. Il n'y a pas... D'ailleurs, c'est plus compliqué que ça parce que l'après 83, le tournant de la rigueur n'est pas perçu forcément comme cela tout de suite par une partie de la population qui a soutenu François Mitterrand et qui soutient, y compris ce gouvernement, parce qu'il n'est pas tout seul par ailleurs. Bien sûr, il imprègne fortement la politique qui est menée, je ne le nie pas. Et les premières conquêtes sont des conquêtes sociales, il faut le dire, ouais, que ce soit sur les 39 heures, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congés payés. Moi, j'ai mon père qui est aussi syndicaliste, qui est en train de monter une union locale à l'époque. C'est très, très dur là où il est. Et il s'appuie sur ces mesures-là. Bon, il y avait vraiment de l'appui, d'ailleurs, pour cette politique-là. Il y avait des hommes et femmes qui se battaient pour que leurs conditions de travail s'améliorent, que leurs conditions de vie soient meilleures. Et donc, du coup, bien sûr, c'était des mesures qui permettaient d'aller plus loin et de faire valoir aussi un certain nombre de droits dans l'entreprise. Ça, c'était quelque chose de réel. Je veux dire, ça a servi aussi dans les deux sens, d'ailleurs, hein, le rapport de force. Mais il y a aussi... je sais que c'est quelque chose qui souvent revient, hein, la question de l'abolition de la peine de mort. Moi, j'étais très jeune quand même à cette époque-là, mais c'était quelque chose qui me marquait profondément, la peine de mort, parce que on était certes jeunes, et moi j'étais frappée. Alors je pense que c'est aussi lié, hein, à des professeurs qui m'ont marquée sur ce sujet-là, qui fait que même parfois, on avait une position, ma sœur et moi, on était jeunes, et qui allait beaucoup plus loin que la majorité des Français. On ne comprenait pas comment on pouvait être pour la peine de mort. Et ça, pour le coup, j'ai même le souvenir, je ne me souviens pas forcément de tous les mots, mais je revois Badinter intervenir sur le sujet. Et pour moi, l'abolition de la peine de mort, c'était enfin le passage à une société quand même plus juste, plus humaine.
Plus civilisée, vous voulez dire ?
Ouais, je le dis, parce que pour moi, la justice, c'est la justice et pas la vengeance. Et donc, du coup, c'était quelque chose de très positif. Ça c'est aussi... il fallait faire preuve d'un grand courage, puisque c'était... ultra minoritaire à l'époque.
Enfin, j'exagère.
En tout cas, dans la population, c'était assez minoritaire. Mais même y compris chez des gens de gauche. Hein. J'ai discuté même plus tard avec des gens qui étaient favorables au maintien de cette
guillotine. Mais François Mitterrand lui-même n'a pas toujours été contre la peine
de
mort.
Non, bien sûr. Mais on peut lui reconnaître au moins d'avoir changé là-dessus et d'avoir été un des premiers à dire bah, il faut cesser avec cette
barbarie. L'influence des Badinter a dû être, de Robert Badinter, entre autres, a dû être évidemment très importante.
Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui a mené par ailleurs le combat. Donc voilà, et après, la déception, elle vient un petit peu plus tard. Elle vient aussi avec la cascade, la poursuite de la désindustrialisation, la perte d'emplois dans certaines régions qui étaient très industrielles, et y compris parce que c'est arrivé aussi dans d'autres régions, et les gens sont confrontés à ça et ne comprennent pas. Et c'est clair qu'il y a un moment où il y a une incompréhension, hein, bon, et l'échec aussi des élections législatives en 86 vient de là. Ça percute. Alors, on pourra peut-être y revenir, mais je pense qu'on a un tournant là, qui est un tournant libéral partout. Il y a Reagan, il y a Thatcher, etc. Et au fond, même si la France a encore un État social qui est fort, il y a encore un gouvernement qui est à gauche, on commence effectivement à sortir de la première logique qui était celle avancée avec les 110 propositions qui étaient faites pour 81, avec une logique, bon, déjà, appelée ce tournant la rigueur. C'est pas que c'est devenu quand même un qualificatif que tout le monde utilise, parce que véritablement, il y avait un tour de vis. Et ce tour de vis, il n'a pas été compris par une population qui avait soutenu François Mitterrand.
Est-ce qu'il n'était pas nécessaire tout de même le tour de vis ?
Non, je ne partage pas cette vision de la politique. Hein. Je pense que de toute façon, il y a une chose que n'ont pas compris, je crois, les socialistes et les communistes aussi, qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Je peux vous raconter, c'est des anecdotes, comment se passaient les cellules du Parti communiste avec mes parents, qui étaient des gens qui réfléchissaient et qui posaient des questions. On disait, mais non, il ne faut pas remettre en question, il ne faut rien dire, il ne faut pas bouger, il ne faut pas manifester. C'était une erreur, parce que je crois que si peut-être ce gouvernement-là avait vu l'appui et les mobilisations des salariés à ce moment-là pour dire non, on ne veut pas de cette politique-là. Et je pense que le poids, par ailleurs, à l'époque, d'un relais du PSF qui était la CGT, voilà, il faut le dire aussi, ça marchait comme ça, a joué ce rôle un peu de ralentissement, hein, pour que les gens ne protestent pas ou n'aient pas trop protesté, parce que ça allait gêner le gouvernement, c'est comme ça qu'on le disait, a été une mauvaise chose. Et mes parents, ce sont des militants, comme les autres, mais qui se posent aussi des questions, parce que quand on est militant, on doit s'en poser, sinon c'est un problème. Ils sont partis. Hein, ils ont quitté ce parti communiste. Par ailleurs, ils en voulaient peut-être plus à un parti qui disait une chose et qui en faisait une autre, peut-être même qu'à François Mitterrand, qui restait quand même, je le dis, hein, c'était un homme d'État qui était assez remarquable, il faut être honnête, d'une intelligence particulière, d'une culture quand même aussi particulière. Je suis désolée, ça rompt quand même aussi avec certains présidents que nous avons eus après. Je le reconnais, même si je n'approuve pas...
Alors peut-être qu'on en parlera de la culture de François Mitterrand, oui. Et notamment avec Christian Autier et Romain Cugy. Alors vous, Christian Autier, Mitterrand, les années Mitterrand qui se confondent beaucoup avec les années 80, qu'est-ce qu'on peut porter à son crédit et qu'est-ce qui serait plutôt à son débit ?
Mais évidemment, sur la peine de mort, enfin, les avancées sociales, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais enfin, à mon sens, c'est des choses assez, assez incontestables. Et effectivement, le tournant, encore une fois, le tournant de la rigueur, 83, mais surtout les années qui vont suivre, les années 80, les années 90, c'est ça vraiment le basculement historique. Moi, je me souviens, enfin, c'est vraiment les noces de fer entre les libéraux et les libertaires. Moi, je me souviens, j'ai vérifié l'année tout à l'heure, j'avais vu cette émission en direct. Il y avait une émission sur TF1, je crois que le titre était Ambition, en 1986. Où Bernard Tapie faisait l'éloge de l'entreprise, du libéralisme économique, et il recevait sur ce plateau-là, moi, j'étais déjà jeune lecteur de Libération, donc j'aimais beaucoup Libération, Serge Julie, ancien Mao, directeur de Libération, et Alain Madelin, ancien d'Occident, et je ne sais pas s'il était déjà ministre ou futur ministre de l'Industrie.
Donc, ancien militant d'extrême droite.
Et donc on avait tout ce trio-là, très emblématique, nous vantait l'esprit d'entreprise et le libéralisme, et bon, et tout ça, les années fric, c'était les années Tapie. Ces années-là ont été vraiment les années fric et celles qui ont suivi. Et vous évoquiez évidemment Thatcher et Reagan, mais nous, on a eu Jacques Delors, Pascal Lamy, Jacques Attali à la tête de la Bird, qui vont déréguler. Alors, ce que beaucoup mettent au crédit de François Mitterrand, c'est effectivement l'Union européenne, la construction de ce grand marché, mais on peut aussi le
rapprochement avec l'Allemagne,
mais qui a été une énorme dérégulation, la création d'un marché de consommateurs. Maintenant, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Y compris la majorité qui est aujourd'hui au pouvoir, dit « Ah oui, finalement, l'Europe, bah oui, on est allé trop loin, on a trop dérégulé, on est maître de rien, on a désindustrialisé, on est souverain sur rien ». Il y a une expression aussi très juste, toujours à propos de 83, de Jean-Pierre Chevènement, qui répète souvent, c'est l'ouverture d'une parenthèse libérale qui n'a jamais été refermée. Et c'est ça, en fait, pour moi, c'est là où ça met le poison dans la gauche, c'est qu'à partir de là, il y aura une schizophrénie. Donc la gauche est évidemment convertie au libéralisme économique, au capitalisme mondialisé, sauf que pendant les élections, pour faire élire Lionel Jospin, pour faire élire François Hollande, on revient au vieux slogan, au socialisme, aux mesures. Alors on fait on prend l'impôt sur la fortune, on prend 2-3 mesures symboliques, et pendant ce temps, on fait des vraies politiques libérales et des vraies politiques capitalistes.
Oui, on n'a jamais autant privatisé
Lionel Jospin, qui a plus privatisé en volume que Juppé et Balladur, les gouvernements Juppé et Balladur réunis, ce qui est quand même une performance. Au moins Macron a eu ce mérite d'avancer à visage découvert. C'est un ancien socialiste, enfin, il était au Parti Socialiste à un moment, il a gouverné avec François Hollande, et il se présente comme un libéral, social-libéral. Enfin, voilà, au moins, lui, il ne renie pas. Je crois qu'il a au moins peut-être crevé cette schizophrénie ou cet abcès qui, moi, me sidère depuis que j'ai une conscience politique, donc plutôt le deuxième septennat.
On remarquera qu'il y a un homme qui est toujours dans l'entourage proche des présidents depuis les années 80, c'est Jacques Attali, qui sera passé après par Sarkozy, maintenant Emmanuel Macron. Bon. Alors, vous, Romain Cugy, vous savez, à l'époque, dans les années 80, je pense que Christian Autier et sans doute même Myriam Martin s'en rappellent, il y avait ce qu'on appelait les Mitterrandolâtres, c'est-à-dire des gens qui étaient des inconditionnels de François Mitterrand, qui étaient absolument incritiquables. Alors est-ce que vous êtes un peu Mitterrandolâtre, ou quand même, vous ne portez pas tout à son crédit de toutes les décisions qu'il a pu prendre pendant sa présidence ?
Non, mais
deux présidences.
Je vais vous répondre. Je suis bien sûr parfaitement ouvert à la critique de François Mitterrand. Et vous savez, dans le livre que j'ai écrit dans les élections municipales de Toulouse, Un chemin pour Toulouse, dans la première phrase, il y a la critique du tournant de la rigueur de 83, qui est pour moi, on va y revenir, un des graves problèmes dans l'incarnation, et je remercie le recul avec lequel Christian a apporté cette question-là, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé en 83, ça dit plus que ce qui s'est passé en 83, c'est-à-dire que c'est une brèche ouverte, et on va y revenir. Mais quand même, avant ça, il faut tout nommer. On a parlé de la peine de mort, j'y reviens pas. Mais aujourd'hui, si les Français travaillent 35 heures, c'est parce que François Mitterrand a permis, lorsqu'il est arrivé en responsabilité, qu'on ne travaille plus déjà que 39 heures. Si les Français ont 5 semaines de congés payés, c'est grâce à François Mitterrand. Si les Français, pendant 25 ans, ont pu partir à la retraite à 60 ans, c'est grâce à François Mitterrand. Si dans l'entreprise, il arrive que de temps en temps, des salariés puissent s'opposer à leurs patrons et faire valoir leurs droits, c'est parce qu'il y a eu les lois Auroux de François Mitterrand.
Il y a eu la création entre des comités d'hygiène et sécurité.
Si les homosexuels ne sont pas condamnés, c'est parce que François Mitterrand a dépénalisé.
Non,
bien sûr que si. François Mitterrand,
n'était plus pénalisée en France.
Si, elle était dépénalisée. C'est François Mitterrand qui a dépénalisé.
C'était la majorité sexuelle qui n'était pas alignée. Ça, c'est un mythe.
Non, personne n'était condamné. Ah oui, parce qu'il y avait une distorsion. Parce qu'il y avait une distorsion entre l'application du droit, c'est-à-dire que la loi n'était plus appliquée, mais la loi demeurait. Celui qui l'a abolie, c'est François Mitterrand. En tout cas, l'œuvre. Si vous voulez, de libération sociétale de François Mitterrand, est aussi à mettre à son crédit. Et d'abord, ce sont, et effectivement on l'a dit, de grandes avancées sociales. Ces avancées sociales-là, on ne peut pas les balayer d'un revers de la main, y compris quand on parle du tournant de la rigueur. Parce que, d'abord, le tournant de la rigueur ne provient pas, je le combats intellectuellement, et je pense que la gauche n'aurait jamais dû ouvrir cette brèche-là. Mais elle ne vient pas d'un revirement idéologique de François Mitterrand. Elle vient aussi parce que ce qui se passe en France ne plaît pas aux marchés financiers, ne plaît pas aux libéraux qui partout dans le monde sont en train de prendre le pouvoir, et qu'on a une part d'attaque politique à laquelle François Mitterrand doit répondre. Ça ne justifie pas. Mais effectivement, quel est le pari stratégique de François Mitterrand? Quel est peut-être le plus grand legs de François Mitterrand? C'est Jacques Chirac qui le dit. C'est l'alternance maîtrisée. Il a montré aux Français que la gauche aux responsabilités, c'était pas les chars russes au milieu de Paris. Et cette capacité à exercer le pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui a, à mon avis, de temps en temps, conduit François Mitterrand, bien sûr, à faire finalement fausse route. C'est-à-dire que c'était probablement son objet majeur et son obsession majeure que d'accoler à cette gauche-là, celle qui gouvernait, la capacité à exercer durablement des responsabilités et donc parfois, effectivement, à manquer de courage. Et moi, de la même façon que Christian, ou je crois Miriam, on peut tous se mettre d'accord autour de la table, ni Attali, ni Delors, ni Lamy, ni toutes ces personnes-là qui ont effectivement souvent été dans l'entourage de François Mitterrand ne font partie de ma gauche à moi. Ma gauche à moi, c'est celle qui n'a pas renoncé, c'est celle qui veut changer la vie. Donc c'est beaucoup plus celle de 81, bien évidemment, que celle de 83. Mais quand même, n'oublions pas une chose, on y reviendra peut-être. Si François Mitterrand est réélu très largement en 1988, c'est aussi que celles et ceux qui ont voté pour lui en 1981 ont reconnu quand même, dans l'exercice des responsabilités, nombre de choses que François Mitterrand avait pu faire et ses conquêtes sociales sur lesquelles, celles que j'ai nommées, il ne revient pas en 83. C'est-à-dire que finalement, 83, c'est pas tellement un retour en arrière qu'un véritable coup d'arrêt. Hein, ça aussi, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur les acquis. On pourrait parler aussi, peut-être qu'on le fera, des nationalisations dont on a beaucoup raillé ou critiqué.
Ah, c'était très critiqué.
Mais qui ont été pour beaucoup, on pourrait les prendre une à une, mais pour un certain nombre d'entre elles, un succès. Et la réindustrialisation à cette époque et la réappropriation finalement par la puissance publique d'un certain nombre de moyens de production, ce sont des choses qui ont fonctionné. Et ça, c'est quand même finalement pour nous un formidable démonstrateur. Et puis je termine un dernier mot sur François Mitterrand. Sa grande œuvre aussi, c'est quoi? C'est l'union des gauches. Et quand moi je vois aujourd'hui trois partis, je suis très à l'aise puisque j'appartiens à aucun, mais trois partis qui se partagent 25%, qui sont pas capables de se parler, qui s'envoient des invectives et qui envoient toute la gauche et celles et ceux qui finalement galèrent aujourd'hui en France, qui n'ont pas besoin d'un grand soir, qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles au quotidien pour changer leur vie, dans le mur, avec un duo déjà annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, eh bien, j'aimerais bien, moi, quand même, qu'on ait quand même quelqu'un qui, comme François Mitterrand, soit en capacité de construire le rassemblement des forces de gauche.
Myriam Martin, qu'est-ce que vous pensez de ce plaidoyer enflammé?
Oui, pour cela, déjà, Romain, il faudrait quand même peser les responsabilités des uns et des autres. Parce que si on en est là aujourd'hui, alors je ne conteste pas que la gauche est dans une situation qui est difficile. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais c'est aussi le résultat d'une trajectoire, et en particulier de celle qui a prétendu gauche gouverner et qui, comme tu l'as dit, a commis beaucoup d'erreurs. Et y compris là, pour le coup, on peut parler de trahison parce qu'il y a une partie de son électorat qui s'est senti trahi. Ce qui explique aussi la situation que nous vivons aujourd'hui. Ces échecs-là, on les paye aujourd'hui. Donc, les gauches irréconciliables, je ne sais pas, elles doivent se parler peut-être, mais si elles doivent se parler, c'est sur des projets bien précis, et y compris sur de la clarté. Parce que moi, je préfère effectivement parler sur des projets qui me renverraient plutôt en 1981 qu'en 1983. Et la question du progrès social... effectivement, elle a été noyée dans des considérants qui ont été ceux du libéralisme. Je ne pense pas que François Mitterrand, en 83, tout d'un coup s'est réveillé en se disant « Ouh, je vais changer de voie, je suis un libéral », mais il a manqué aussi avec les siens, il a manqué de courage. Et à un moment donné, ce courage, quand il a fini par disparaître, bien après, même pas forcément qu'avec lui, on a fini par justifier l'injustifiable, c'est-à-dire qu'on s'est adapté aux politiques libérales, on s'est adapté aux conditions... qui ont construit l'Europe, et on a dit c'est ça la gauche, ben c'est pas ça, voilà. Et comme c'est pas ça, on a aussi complètement perdu des millions de gens qui ne se retrouvent plus d'ailleurs dans ces partis-là, et c'est une réalité. Et si on articule ça aussi à l'échec, parce qu'il s'est passé aussi une chose au niveau mondial, il y a l'échec du communisme dans le camp de l'URSS. Donc si on articule cette politique sociale démocrate qui est devenue de plus en plus sociale libérale, plus l'échec, il faut reconstruire une utopie aujourd'hui. Je suis bien d'accord. Mais une utopie, c'est effectivement pour répondre à l'intérêt général. On ne répond pas, on ne s'occupe pas, tu as raison, au quotidien, des besoins des uns et des autres. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, ces élections régionales. Mais il faudra le faire au niveau national. Mais pour ça, il faudra avoir du courage politique et s'attaquer, effectivement, à ce qui nous conduit aujourd'hui dans des inégalités insupportables, dans de la misère, de la précarité. Et il faut s'attaquer aussi au système tel qu'il fonctionne. Et ça, pour ça, il faut du courage politique. Je ne sais pas si tout le monde à gauche a le même courage. Je pense que certains ne l'ont pas. D'autres l'ont.
Effectivement, la gauche aujourd'hui est donnée, l'ensemble des partis dits de gauche représentent 25% aujourd'hui dans les sondages. 25%, c'était le score de François Mitterrand au premier tour en 80. Sachant que Georges Marchais avait fait plus de 15. Christian Autier, Mitterrand, l'homme qui a fait l'union de la gauche, est-ce que ce n'est pas peut-être aussi l'homme qui après l'a fragmenté, ce qui fait qu'aujourd'hui on le retrouve un petit peu atomisé, la gauche?
Oui, enfin non, il a fait l'union d'ailleurs pour être réélu aussi, comme Romain l'évoquait en 88, mais surtout il a fait la désunion de la droite. Il ne faut pas oublier l'élément clé dans l'élection de 1988, c'est l'apparition à partir de 83-84 sur le plan électoral, sur la scène politique, d'un parti qui s'appelle le Front National. Et le pouvoir d'alors va demander aux radios et aux télévisions publiques d'accueillir son leader, Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est tout à fait établi. Et donc, le Front National arrive à, je ne sais pas combien il fait, Le Pen 12 ou 13 en 86. Ils arrivent surtout avec
35 députés. Avec la proportionnelle, ils ont 35 députés.
Avec la proportionnelle qui a été créée, on le sait aussi, pour le Front National. pas pour les écolos ou le CDS.
En tout cas pour affaiblir la droite de l'époque.
Donc il y a aussi cette instrumentalisation assez cynique du Front National et de son pendant qui va être SOS Racisme, créé par le premier cercle mitterrandien. Et c'est là où on en revient à la question sociale qui va être, à partir de 85-86, cette gauche-là se dit on va abandonner le prolo et on va prendre un prolétariat de substitution. Il y a eu un cycle historique et maintenant on voit bien que la lutte des classes a disparu dans la lutte des races.
Ce qui aboutira à ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche Terra Nova.
Voilà. C'est le fameux rapport de Terra Nova d'il y a quelques années. Et là, je veux dire, le tandem FN-SOS, c'est quand même là aussi un processus.
Drôle d'articulation quand même.
Christian, je vois bien ce dont vous parlez. Ça fait d'ailleurs partie des choses qu'on attribue beaucoup à François Mitterrand. On peut pas... On ne peut pas aujourd'hui dire que SOS Racisme et Jean-Marie Le Pen travaillaient quasiment de concert. Parce que finalement,
c'est pas ce que je dis. Ça faisait partie
Vous le mettez sur le même plan. Ça n'a pas de sens.
SOS Racisme, d'abord, ça n'est pas que François Mitterrand. SOS Racisme, c'est un ancrage beaucoup plus fort. Il y a énormément de gens qui se sont reconnus dans cette lutte antiraciste. En revanche, Christian, là où moi je partage ce que vous dites, c'est quand vous dites la gauche a finalement laissé tomber le prolétariat. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça que je le dirais, mais il y a... En tout cas, en France, depuis des dizaines d'années, une gauche qui se préoccupe principalement, parce que c'est beaucoup plus facile, des questions sociétales que de la question sociale. Et je fais partie de ceux qui, depuis toujours, pensent que tant qu'on ne donnera pas aux gens la capacité d'amener leurs gamins en vacances, de les nourrir correctement, de se loger de façon digne, etc. C'est ça le rôle historique de la gauche. Alors on peut mener concomitamment, idéalement, les deux combats, les combats sociaux et les combats sociétaux. Mais finalement, on a une partie de la gauche française et singulièrement une partie du Parti socialiste qui a définitivement abandonné cette question-là pour ne se consacrer finalement qu'aux questions sociétales. Quand on fait ça...
Qu'aux questions sociétales et à la lutte contre le FN qui va d'ailleurs se retourner en 2002.
Évidemment.
C'est-à-dire c'est Pierre Berger, Harlem Désir, c'est quand même sont les icônes. Pendant ce temps, on désindustrialise la France, il y a les plans sociaux et c'est là qu'on crée les nouveaux pauvres qui ne sont pas nés de nulle part et le chômage de masse. Donc pendant qu'on faisait des grands concerts et qu'on s'effrayait de l'arrivée de la peste brune au pouvoir, on détruisait la classe ouvrière.
L'un sans l'autre, vraiment, Christian, n'était pas impossible. On pouvait très bien lutter contre le racisme parce qu'il fallait le faire. Et moi, j'étais dans cette génération où on s'est investi effectivement dans SOS sans calcul, y compris. Réfléchissez qu'on avait des dizaines de milliers de jeunes parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait un problème et en même temps, on pouvait tout à fait lutter sur, vous avez raison, sur les questions sociales.
La sincérité de l'engagement des jeunes, comme vous dites à l'époque, n'est pas discutée, mais là, c'est plutôt l'instrumentalisation.
Oui, mais l'instrumentalisation, il ne faut pas non plus l'exagérer par ailleurs, parce que petit à petit, contrairement à ce qu'on croit, en réalité, les difficultés, même y compris pour continuer à vivre en tant qu'organisation qui organisait beaucoup de jeunes pour SOS Racisme, elle est venue aussi pas simplement du fait que des caciques socialistes s'en occupaient plus, mais parce qu'en réalité, cette lutte-là, elle est devenue plus compliquée, on ne va pas débattre là, et elle a pas, enfin, l'instrumentalisation par une partie du PS, c'est un fait, mais moi, j'étais jeune militante à SOS Racisme, j'avais des idées politiques, je n'étais pas non plus complètement
stupide. Je ne suis pas sûr que le PS ait réussi un jour à instrumentaliser Mme Martin.
Non, je ne pense pas, et pourtant, on savait très bien.
Il y avait
des militants, mais il y avait d'autres militants syndicalistes, politiques, dans SOS, qui comprenaient qu'il était important d'avoir un mouvement, justement, pour éviter d'unifier ce mouvement antiraciste. Il fallait absolument l'unifier. Donc voilà, il faut faire attention. Je trouve que
mais
parfois,
cas,
on est un peu...
Ça a échoué.
Si vous voulez, voilà, ça peut être échoué. Mais en tout cas, on est un peu caricatural sur le rôle de... Sur le rôle même des dirigeants socialistes. Bon, ils étaient partout, ils étaient aussi dans les syndicats enseignants, on le savait, tout ça c'était pas des gens qui tiraient des ficelles et des marionnettes, hein, il faut quand même pas exagérer. Par contre, oui, moi je pense que le vrai sujet, c'est la question sociale et effectivement la peur de heurter aussi les puissances économiques, voilà. Ça a toujours été le cas, hein. C'est pas nouveau, hein, parce qu'on l'a vu aussi sous le Front Populaire. C'est à chaque fois le vieux débat. Comment on va plus loin, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et là-dessus, oui, il y a eu un manque de courage, mais pas que de, par ailleurs. Parce que je pense que les alliés aussi en ont manqué beaucoup.
Le fait est qu'aujourd'hui, le parti majoritaire chez les jeunes, les 18-25 ans, et chez les ouvriers, c'est le Front National, plutôt le Rassemblement National. Je date un peu aussi. Alors, Romain Cugy, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais intervenir parce que dans ce que dit Myriam Martin et que je trouve très juste, la peur de heurter, il y a un très joli texte d'Emmanuel Morel, qui est un député européen, qui dit « La gauche ne fait plus peur et c'est un problème. » La gauche, effectivement, en tout cas celle à laquelle je suis attaché, il est normal et naturel que lorsqu'elle arrive aux responsabilités, elle puisse effrayer un certain nombre de personnes. Alors non pas individuellement, parce qu'elle est profondément attachée à la liberté, profondément attachée à la démocratie, mais si la gauche n'est pas là pour mener une forme radicale de lutte pour l'égalité, et cette lutte radicale, elle passe par une nouvelle répartition des richesses, qui effectivement va nuire à celles et ceux qui aujourd'hui captent les richesses en France.
Donc,
en tout cas, cette force-là, cette radicalité-là, c'est une radicalité noble. Mais vous avez raison de rappeler qu'aujourd'hui, le Front National est le premier parti des jeunes et de loin le premier parti des ouvriers. Eh bien là, c'est la même chose. On peut s'offusquer de ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, j'estime que mon rôle en tant qu'élu, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi.
Pourquoi ?
C'est parce que ça fait 30 ans qu'on est les idiots utiles de la mondialisation libérale, qu'en Europe et singulièrement en France, on laisse toujours tout passer. On respecte les lois libérale que les Américains nous imposent et que eux-mêmes ne s'appliquent jamais. Regardez ce qu'ils font avec Boeing en matière de protection. Regardez ce qu'ils font avec les vaccins. C'est toujours la même histoire. On est les idiots utiles de la mondialisation libérale. Et finalement, quand la gauche laisse à penser à celles et ceux qui sont dans la galère pour savoir s'ils vont finir le mois en pouvant encore nourrir leur enfant ou pas, que notre seul sujet à nous, ce sont des sujets qui, pour eux, sont des sujets annexes, parce qu'on ne pense qu'à ça. Quand on n'est pas en capacité de donner à manger à ses enfants, c'est son obsession du matin au soir. Donc le seul sujet de la gauche, c'est comment est-ce qu'on fait la gauche anti-Terra Nova. Voilà, c'est-à-dire celle qui ne s'occupe pas de celles et ceux qui vont bien. Parce que ça, on s'en occupera de celles et ceux qui vont bien, qui sont confortablement installés et qui défendent bien souvent une très belle idée de la liberté, de l'émancipation, de la culture. On s'en occupera une fois que toutes les personnes qui sont en réelle difficulté sociale dans ce pays, les mères célibataires qui n'y arrivent plus, les familles qui sont dans des galères invraisemblables, quand on aura réussi à s'occuper, à changer la vie de ces gens-là, alors à ce moment-là, on pourra réélargir notre socle, finalement, des personnes auxquelles on s'adresse.
Alors, je vais poser une question un peu provocatrice qui va un peu résumer ce que vous avez dit les uns les autres là, depuis quelques minutes. Est-ce qu'un des héritages, un des legs de François Mitterrand sur la scène politique française, en tout cas dans la vie politique française, ce ne serait pas justement une gauche qui ne serait plus de gauche, une droite qui aurait honte d'être de droite, et au milieu de tout ça, un Front National, aujourd'hui Rassemblement National, autour duquel tourne le résultat de la plupart des élections depuis 20 ans. Christian Autier, peut-être, sur cette question.
Je ne sais pas, il y en a tellement, il y a tellement de questions, en fait, dans votre question.
Oui, mais...
Non, moi, encore une fois, je reviendrai, je n'ai pas développé tout à l'heure l'héritage de François Mitterrand, qui est indéniable. Enfin, là aussi, il y a des gens qui l'approuvent ou qui le déplorent. C'est l'Union européenne, hein, c'est l'intégration de la France dans cet espace économique.
Est-ce
et pas seulement.
Est-ce que c'est une perte de notre souveraineté, de la souveraineté française, à contrario?
Oui, évidemment, mais bon, après, oui, tout c'est un choix.
Ça enfin, dépend ça, comment on voit les
chacun,
choses.
Chacun, après... Mais moi, je me souviens aussi, j'avais le souvenir de la campagne de Maastricht, et non pas Maastricht, comme disent là aussi les adversaires du traité, 1991. Et j'avais été frappé par la révélation du cancer de François Mitterrand une semaine avant avant le référendum. On a su plus tard que en fait, François Mitterrand était au courant depuis 1981.
Son
cancer s'est déclaré
peu après son élection.
Quelques mois après son élection. Et là aussi, je pense que ça fait partie. Alors, c'est des choses, pas toujours, comme on disait tout à l'heure, qu'on analyse a posteriori.
La part d'ombre.
Mais quand même, ça témoigne, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé. Et je dis, il faut quand même aussi évoquer le personnage. Ça témoigne aussi quand même, on parlait d'instrumentalisation, mais d'un cynisme absolument effroyable. Et plus encore, après, moi, on n'a pas évoqué les affaires, ça a été quand même le deuxième septennat qui a été plombé par les affaires. Les écoutes de l'Élysée, qui a été quand même un scandale d'État, comme on a
la
5e République
n'a pas connu. Et
évidemment, moi je me souviens, c'est la première fois que j'ai voté François Mitterrand en 1988. Bon, admettons l'histoire de la Francis, qu'on peut en discuter, on peut avoir été un sincère pétainiste et devenir un sincère résistant comme il l'a été, courageux. Ça. Mais alors l'amitié avec Bousquet jusqu'à la fin, cette indéfectible amitié envers le principal responsable de la déportation des Juifs de France, tout ce qui s'est passé pour protéger Bousquet, là aussi on est dans le domaine, l'amitié au sens de Camorra, pour moi il n'y a plus d'admiration dans ce genre d'amitié-là envers un criminel de cette espèce. Et là on touche quand même, je crois, encore une fois, c'est le mot moi qui semble caractériser au moins le second septennat, mais une partie aussi du premier, c'est le cynisme absolu du personnage, un état de vraiment de absolument, enfin, moi qui me laisse pantois. Quoi.
Et puis vous n'avez pas cité la révélation au public, en tout cas, de l'existence de Mazarine, donc de cette fille cachée.
Oui, qui est liée aux écoutes, parce qu'en fait, les écoutes, et même en partie, la cellule antiterroriste qui a fait des mauvais coups par ailleurs, mais la cellule antiterroriste et les écoutes étaient faites pour protéger ce secret d'État que beaucoup, par ailleurs, connaissaient. Quoi.
Alors, Myriam Martin, là, sur les sujets qu'on vient d'évoquer.
Oui, plusieurs choses. Bon, d'abord, oui, François Mitterrand, c'était aussi un homme, donc il avait sa part d'ombre, comme vous l'avez dit. Il avait ce côté aussi florentin, comme tu le disais tout à l'heure, Romain.
Parce que prince de Machiavel.
Je pense qu'il il avait quand même quelque chose qui me dérange, pour le coup. Hein. Mais en même temps, j'ai peur quand même que ces institutions de la Ve République, qu'il avait lui-même critiquées, hein, le fameux coup d'État permanent, Finalement, il s'y est comme les autres, un peu accoulé dedans et puis habitué.
Bah, c'est vrai, c'est une des questions. Est-ce que ça n'a pas été le dernier monarque républicain de la 5e, tel que De Gaulle l'avait imaginé, en tout cas, ou l'avait incarné plutôt?
Peut-être le dernier tel que voilà, De Gaulle l'avait incarné. Après, on en a eu d'autres qui sont aussi des monarques à leur manière, ou des Jupiters. Voilà. Mais bon, je pense que ces institutions ont tendance effectivement à permettre à des hommes comme François Mitterrand de finalement se mouler dans ce pouvoir-là qui fait que, oui, on a un personnage qui est cynique aussi, oui, et qui, un peu, dans sa tête, a peut-être la fin justifie les moyens. Et ça, évidemment, c'est pas forcément la part la plus glorieuse de François Mitterrand. Moi, sur les affaires de Mazarine, etc., c'est vrai que ça m'intéresse que moyennement, je vous avoue. Ce qui est problématique, c'est que lui-même va aussi, parce que je pense que c'est ça, hein, c'est la perversion du pouvoir, utiliser des pratiques qui sont des pratiques qui sont contestables. On ne va pas raconter que quand même sur la 5e République, entre De Gaulle et Mitterrand, il ne s'est pas passé des choses. Et c'est des pratiques qu'on connaissait et qui, en fait, finalement, on découvre qu'elles se poursuivent. Et c'est un vrai problème. Après, l'héritage de... Je vais finir là-dessus. Vous avez demandé au début, est-ce que, quelque part, l'héritage qu'on a aujourd'hui... Il fait partie, évidemment, de...
Une gauche qui n'est plus de gauche, une droite qui
est de droite. Il a des responsabilités énormes dans le fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a une gauche qui a honte d'être à gauche, y compris parfois qui va chercher des formules absolument hallucinantes qui ne veulent rien dire. Récemment, Carole Delga nous a répondu « Oui, mais moi, je suis la gauche entrepreneuriale, mais je ne suis pas la gauche, moi, anti-entrepreneuriale. Je m'en moque, ce n'est pas ça le sujet. Moi, je suis pour une gauche qui n'est pas honte de ce qu'elle est, qui ne renonce pas à changer les choses et qui effectivement protège ceux qui ont besoin d'être protégés le plus. Et on a une majorité de la population qui a besoin effectivement d'être protégée. Là, ça a été rappelé par
la justice sociale.
Par Romain. Ouais. Le sujet n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'entreprise. On est pour savoir si c'est l'économie qui doit guider le politique ou l'inverse. Ben moi, je pense que c'est le politique qui doit donner le là. Et qu'à un moment donné, effectivement, quand les puissances économiques sont trop gourmandes, quand elles détruisent la planète, quand elles reviennent sur les droits sociaux, le politique à gauche doit être là pour dire stop et on fait autrement. Effectivement, on protège nos concitoyens, on donne des droits parce que le progrès social, le progrès humain, c'est avoir plus de droits, c'est aller vers l'égalité, c'est aller vers la justice sociale. Et Mitterrand, de ce point de vue-là, effectivement, a un héritage qui est assez terrible. Cette gauche-là, elle a oublié tous ses combats. Enfin, en tout cas, une partie de la gauche a oublié ses combats.
Voilà, c'est aussi un des paradoxes de François Mitterrand, qui était un pur politique, et je ne crois pas que l'économie, c'était vraiment son dada. Romain Cugive, on a parlé des affaires. Alors, vous qui admirez tant cet homme, son amitié avec René Bousquet, comment vous vous débrouillez avec ça?
Alors, je vais vous répondre. D'abord, avant d'admirer l'homme, et je l'ai dit en ouverture, j'admire son bilan. Et quand vous dites, est-ce que François Mitterrand nous laisse une gauche qui est
pas de
gauche,
c'est l'homme politique aussi.
Veuillez m'excuser, mais je le redis, parce que hein, la pédagogie, je parle sous le contrôle de Myriam Martin, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition aussi. Il me semble quand même qu'une gauche qui fait les 39 heures, qui fait la 5e semaine de congé payé.
Moi, je parle d'aujourd'hui. Hein.
Qui remet... Mais son legs, c'est avant tout son
action.
Vous
l'avez déjà dit, et je pense que tout le monde l'avait entendu.
Et je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Vous savez, quand on part à la retraite à 60 ans au lieu de 65, hein, l'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui en France, c'est 67 ans. C'est ça la vérité de nos retraités qui galèrent. Donc, bon, les affaires de François Mitterrand, c'est naturellement... pas ça qu'on a envie de retenir de l'homme. Mais là aussi, moi, je n'aime pas en fait qu'on mélange tout. Et vous savez, on a déjà dans cette émission discuté d'un certain nombre d'affaires dont on parle. Moi, j'ai une règle, et je me permets de le dire puisqu'on est dans une radio appropriée, si je ne devais avoir qu'une religion, c'est celle de ne commenter que ce qui est jugé, parce que sinon on n'y arrive pas, hein, on n'arrive pas à tout commenter. Vous me parlez de René Bousquet, bon,
il ne s'agit pas vraiment de juger, il s'agit plutôt de comprendre, je dirais.
Alors, bon, lui s'en est expliqué sur René Bousquet. Moi, je ne suis pas là pour juger, je n'ai pas lu le livre de Péan, donc je ne peux pas développer ici l'ensemble de son argumentation. Je peux vous dire un mot de ce que j'en sais. Que dit Mitterrand? Mitterrand dit il y a une haute cour qui fait mal son boulot. D'accord? Mais il y a une haute cour qui juge. Qui juge René Bousquet? Et qui dit quoi? On vous enlève l'indignité nationale. On vous blanchit. Il y a le Conseil d'État, plus haute juridiction française, qui rend la Légion d'honneur à René Bousquet.
Là, on parle de l'immédiat après, enfin, les années 50. J'y viens.
Pendant ce temps-là, François Mitterrand voit, de ce qu'il en dit, à 12 reprises, souvent avec des gens d'ailleurs, ce n'est pas des tête-à-tête, hein, René Bousquet. Et il ne voit plus jamais René Bousquet, dit-il, à compter du jour où le Tout Paris, qui a reçu René Bousquet, parce qu'on parle de François Mitterrand, il était membre d'un conseil d'administration sur deux d'entreprises, oui. Il dirigeait l'une des grandes banques.
Il y a l'hypocrisie des autres aussi,
tout
ça,
le
ça
monde. Sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si François Mitterrand s'est fait berner par René Bousquet, tout le monde, et tout Paris à l'époque, s'est fait berner de la même façon. Et que dit François Mitterrand sur cet ignoble personnage? Parce qu'il ne faut pas avoir une demi-seconde d'excuses, il faut être très clair. Mais il dit, le jour où je sais, c'est-à-dire en 86, je crois, 86-88, jusqu'à la mort de René Bousquet, je ne le vois plus jamais, je ne lui parle plus. Bon, moi, je me fais pas juge. Ce que je sais, c'est que c'est pas quelqu'un que j'aurais aimé avoir dans mes amitiés. Ça n'est pas quelqu'un qui était digne d'amitié et ça n'est pas quelqu'un qui était fréquentable. Le sujet est de savoir à quel moment les uns et les autres ont su. Je vous le dis, moi, j'ai du mal à croire, parce que vous l'avez dit, François Mitterrand, aujourd'hui, l'histoire le reconnaît, malgré une temporalité, mais qui est aujourd'hui très connue de tous. Mais François Mitterrand a été un véritable résistant. Mais moi, je ne crois pas que François Mitterrand ait pu fréquenter un homme comme René Bousquet en sachant ce que René Bousquet a fait, maintenant que nous le savons, depuis l'enquête des Klarsfeld. Je n'y crois pas. Mais je n'ai pas plus de capacité à vous convaincre que ma conviction profonde, de la même façon que je pense que l'inverse est difficile. Donc, voilà. Ça, c'est un sujet. L'affaire de Mazarine, veuillez m'excuser, mais par exemple, ça, je rejoins un peu ce que dit Myriam Martin, ça, c'est quelque chose qui m'indiffère. Je ne m'intéresse pas part-là de la complexité des hommes. Si le sujet, c'est de savoir ce qui a été fait pour la
peau... Il y a une dimension politique. Les écoutes, c'est Mazarine. Donc, bon, aussi, la famille cachée, on s'en fiche. Les présidents des familles cachées, moi, je m'en fiche.
Ça passerait comme une lettre à la peau, je pense.
Que des systèmes d'écoute d'Edwige Plenel, de tous les grands journalistes de l'époque, de Jean-Yves Dernier,
de Carole Bousquet.
Les écoutes sont absolument condamnables.
Mais c'est lié aussi, grandement lié à la protection. C'est Jean-Yves Dernier qui l'a publié.
Voilà, quelle que soit la raison qui a donné lieu aux écoutes, de toute façon...
Oui,
entre nous,
sûr.
Voilà, les écoutes.
En l'occurrence,
c'est vrai sujet,
voilà,
c'est les écoutes.
Le problème, c'est là où l'affaire Mazarine devient politique. La famille cachée, on
a
rien
à
fiche.
Raison, à mon avis, de le placer encore à un autre niveau politique, c'est que il est une vérité, c'est que François Mitterrand a combattu on est un certain nombre à le faire à gauche depuis l'avènement de la Ve République. Il a combattu les institutions de la Ve République. Il a écrit un livre superbe, Le coup d'État permanent, que j'adore. Vous savez que j'ai fait beaucoup de politique avec Arnaud Montebourg, qui a lui aussi été un fervent opposant de cette Ve République. Et là où moi, vous me demandiez ce que j'aimais bien de l'héritage de François Mitterrand et ce que je n'aime pas, c'est que François Mitterrand s'est parfaitement lové dans les institutions de la Ve République, qu'il a combattu. Et finalement,
qu'il a toujours nié,
cette œuvre-là de transformation, il avait le pouvoir. En 1981 de transformer la Ve République.
C'est le pouvoir qu'il a changé.
Et François Mitterrand, finalement, s'en est contenté. Il ne l'a jamais bouleversé, cette Ve République. Ça fait partie vraiment des éléments pour un sixiémiste comme moi.
Et comme moi, d'ailleurs.
C'est un élément très, très frustrant parce que là, on avait la possibilité.
Vous pensez qu'il l'a fait par souci d'apaisement?
Je ne sais pas. Non, je pense en partie que une fois en responsabilité,
parce que c'est difficile,
il a voulu changer aussi un certain nombre de choses. Et la Ve République,
pas tout faire en même temps.
Oui, et puis la Ve République a un avantage, qui est celui de l'efficacité du pouvoir présidentiel. Oui, c'est-à-dire qu'il avait la capacité
à
transformer la main. C'est la grande différence avec François Hollande. François Hollande et la Ve République, j'en attendais rien, j'en ai quand même été déçu, mais enfin, on n'en attendait rien. Il n'avait jamais fait œuvre de lutte contre les institutions de la Ve République. Voilà, ça fait partie des éléments déceptifs de François Mitterrand. Vous voyez combien je suis objectif, monsieur ?
Vous êtes juste, bien sûr. Christian Autier, sur ce que dit Romain Cugy, la relation entre Mitterrand et Bousquet, vraiment qu'il était...
Non, mais en fait,
il n'était pas au courant qu'il
avait
découvert
Jacques Attali, Yolette Jospin, enfin, bien des gens à gauche ont dit ce qu'il y avait à dire sur cette histoire. Bon, voilà, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Peu importe. Non, je reviendrai sur la Ve République. J'ai vu une séquence séquence très intéressante il y a deux jours à la télévision. Je crois que l'interview date de 84 ou 85, où il y a une journaliste, je ne sais pas qui c'est, une journaliste femme qui interviewe François Mitterrand sur le Titi, sur ce, justement, mais alors monsieur le président, est-ce que vous n'êtes pas quand même bien adapté à cette 5e République? Vous aviez publié le coup de... avec son aplomb phénoménal, il dit non, absolument pas, je sais, vous savez, j'ai écrit le coup d'état permanent, je suis toujours dans cet état d'esprit, pourtant, mais pouvez-vous me citer un seul exemple? Et là ça me faisait repenser à cette séquence aussi hallucinante qu'on a vue des tas de fois à la télévision, où il est interviewé évidemment pas par des journalistes français mais par deux journalistes de la télévision belge à propos des écoutes. Alors eux ils y vont franchement, et François Mitterrand leur dit, avec un aplomb là aussi incroyable, qu'il n'y a absolument pas eu d'écoute à l'Élysée, que c'était absolument un fantasme, et qui leur dit, écoutez là, comme ces gens ont le courage, enfin le courage non, ils font leur métier. Ils reviennent à la question, et là François Mitterrand leur dit, je ne croyais pas qu'on allait tomber, je ne cherche pas à l'imiter, aussi bas, il fait les gestes de la main, il est dégoûté de cette fange qu'on soulève devant lui, cette blanche colombe.
Dans une telle vilaine.
Et il termine l'interview, là, les caméras s'éteignent, voilà, et ça aussi c'était... Voilà, c'était ça aussi François Mitterrand.
L'aplomb de François Mitterrand. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée jusqu'alors, je pense qu'il faut qu'on en parle, c'est la politique culturelle qui a été mise en place dans ces années 80. Alors, le maître d'œuvre, c'était Jack Lang. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Est-ce que la culture n'est pas tombée dans le culturel, puis dans l'industrie culturelle, finalement? Myriam Martin.
Alors, je ne sais pas si c'est que de sa faute, quand même, parce que c'est vrai que là aussi, il y a un bilan. Alors,
c'est certainement pas que sa faute.
Non, mais je veux dire, on peut pas mettre à l'actif de François Mitterrand toutes ces dérives qui sont venues après, parce que je pense qu'on n'a pas, on est effectivement dans une logique d'industrie culturelle, de consommation culturelle, etc. Je crois que c'était pas le projet au départ de François Mitterrand. Alors, il y a des choses qui sont très positives. Vous l'aviez rappelé d'ailleurs dans le déroulé de l'émission. Il y a quelque chose par contre, mais là encore une fois, c'est presque logique un petit peu avec la pratique de nos institutions. Hein. Vous savez, il y a des grandes œuvres qui ont été réalisées. Il y a aussi un côté vitrine. Hein. La culture aussi sert de vitrine au pouvoir politique. Et les grandes œuvres réalisées servent à ça aussi, à valoriser un septennat, un homme politique, un gouvernement, un pouvoir, etc. Mais après, il y a eu effectivement... une volonté culturelle d'aller un peu plus loin que la culture telle qu'elle pouvait être pratiquée dans les années 70, certains conformismes, certaines rigidités qui étaient dénoncées par beaucoup de gens d'ailleurs. Moi, ce que je regrette en réalité, c'est que la logique libérale, elle s'est appliquée un peu partout et aussi sur la volonté de faire de la culture un outil d'émancipation. On s'est arrêté en route en fait. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on se rend compte, et d'ailleurs par l'occupation des espaces de culture aujourd'hui, on se rend compte en fait que beaucoup d'acteurs de la culture aimeraient qu'on revienne à cette idée-là, d'une culture pour tous, d'une culture
vous
qui
pensez
est...
que la démocratisation de la culture a échoué,
elle ne s'est pas faite complètement. Et on a une approche de la culture aujourd'hui qui est liée aussi, alors quand on parle d'une certaine culture, ce que vous disiez, à l'industrie culturelle, au marché, à une culture aussi élitiste. Voilà, et une culture qui est insuffisamment développée auprès de l'ensemble de nos classes sociales, puisqu'une partie quand même en est privée. Les inégalités socio-culturelles, notamment, se voient très tôt à l'école, et c'est parce que la culture n'est pas accessible à tous. Et de ce point de vue-là, on a échoué. Il y a du travail qui a été fait, mais on a échoué. Il y a encore beaucoup de politiques à mener.
Christian Autier, vous, sur la politique culturelle, parce que ça a été quand même un axe très fort de ces septennats, qu'est-ce que vous en pensez? Quel bilan vous en tirez, vous qui êtes écrivain?
Je trouve frappant, c'était effectivement aussi la dichotomie entre l'image, enfin les grands symboles de cette politique culturelle, que ce soit les années Lang, donc la fête de la musique, le grand défilé de 89, le Goud, qui n'était absolument pas la tasse de thé de François Mitterrand, mais là aussi par intérêt, par démagogie, François Mitterrand laissait faire cela. Alors, c'est un homme de culture traditionnelle. Après, moi, ce qui est
culturellement, c'est vraiment un homme du 19e quand même. Pour moi, il vient du 19e.
Oui, c'est sûr que la fête de la musique, c'était pas vraiment son monde. Mais la chose incontestable, c'est évidemment le prix unique du livre, qui est là pour le coup une mesure authentiquement socialiste ou communiste, enfin du moins dirigiste, j'allais dire, ou étatiste, et qui a permis de sauver la librairie française.
Moi, et la libération des ondes, les radios libres,
oui.
C'est tout de même.
Oui.
Vous voyez, même pour le 19e, il a fait des choses de ce point de vue-là.
Mais là aussi, les radios libres, là aussi, il y a le tournant en 1983, ce formidable gisement des radios libres, ça devient énergie, les amis du président.
Alors vous, Romain Cugy, vous devez trouver ça formidable, la politique culturelle sous François Mitterrand.
Je mets au défi quiconque, depuis le couple Mitterrand-Jack Lang, d'avoir ce niveau d'ambition culturelle-là. Plus largement, vous savez, si on parle de l'homme, on pourrait prendre quelques instants aussi pour savoir ce qu'était Mitterrand profondément, quel type de président on avait, quel type de passion étaient les siennes. C'est aussi intéressant de savoir si notre président de la République, et c'est pas simplement une question d'âge, qu'est-ce qu'il fait de ses loisirs. Vous savez ce qu'il faisait Mitterrand de ses loisirs? Il avait une passion que je partage avec lui, qui était les éditions originales. Et il passait des après-midi entières à aller dénicher les éditions originales des livres qu'il aimait. C'est une jolie passion. C'était un président qui a accordé à la culture, et là où je trouve Christian un peu cruel, c'est que je trouve justement que François Mitterrand est sorti avec la politique culturelle de sa zone de confort. Effectivement, François Mitterrand, il préférait Orsay et le Louvre au défilé de la fête de la musique ou à ce type de culture-là, chacun le sait. Mais je trouve justement que pour un homme du 19e, pour quelqu'un qui n'était pas tout jeune, pour quelqu'un qui venait du siècle précédent, avoir cette capacité intellectuel et politique, de se dire qu'on va sortir de soi, parce que c'est ça finalement, c'est
vous
sortir de soi.
Il ne faisait pas ça
soi.
Par intérêt politique, il n'y avait pas d'intérêt politicien.
Je pense qu'il y avait une ouverture d'esprit.
Mais c'était une vraie ouverture d'esprit.
Mais je pense, et de toute façon, je vais vous dire, moi je ne crois pas aux responsables politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, et je ne le dis pas là spécifiquement pour François Mitterrand, on ne fait jamais les choses que par intérêt, strictement, stratégique ou cynique. Ouais. On a toujours, au fond de soi, quelque chose qui nous porte. Les plus grands libéraux de notre époque ne font pas ça que pour préserver leur intérêt. Je suis persuadé qu'ils sont persuadés que cela peut apporter à la société un certain nombre de choses, que le ruissellement existe, etc. Moi, ce que je critique, c'est l'analyse, mais ce n'est pas les raisons qui les poussent à faire ça. Moi je crois profondément que les gens sont sincères. Moi, je crois profondément à la nature humaine. Et donc, je pense que François Mitterrand et la culture, c'est tout à la fois la confrontation d'un certain nombre de cultures classiques. Et de toute façon, quand on avait un président qui était à ce point imprégné de culture classique, de toute façon, le pays tout entier en bénéficie. Mais c'est aussi une capacité d'ouverture et de dire, je vais sortir de moi. Et vous savez, sortir de soi, c'est pas forcément facile, singulièrement quand on fait de la politique, singulièrement quand on arrive aux plus hautes responsabilités. Et donc, je trouve que c'est plutôt un signe d'intelligence.
Ses goûts littéraires étaient très à droite. Vous avez remarqué ça, tout le monde?
Oui, j'ai remarqué. Mais François
Comment
Mitterrand,
vous l'expliquez, ça?
Ah ben,
Là aussi, c'est l'ouverture d'esprit, alors.
Non, mais
je pense qu'on baigne dans une ambiance familiale culturelle qui fait qu'on est aussi structuré par son histoire. Donc, moi, je suis d'accord avec Romain. Je ne suis pas sûre que... On est, alors, je pense que c'était quelqu'un d'assez cynique, mais de là à penser qu'il allait pouvoir instrumentaliser l'ensemble des mesures qui ont été prises sur la culture. On plaisante sur la fête de la musique, mais je vous assure que c'est quelque chose qui structure franchement le début de l'été festif chez plein de gens, des jeunes, des moins jeunes. C'est resté dans les mœurs, y compris avant cette volonté de convivialité autour de la musique.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Je ne sais pas si la fête de la musique aura lieu cette année.
Ça,
fin de cette
sûr.
Mêlée de l'info. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé. Des débats passionnés et je l'espère passionnants pour nos auditeurs. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission. Podcast disponible dès ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous. We'll be right back.